Merci à chacun, chacune pour les témoignages que vous avez partagés. Dieu travaille de bien des façons différentes. En tout cas, j'espère que c'est un encouragement mutuel qu'on peut avoir de partager ces choses-là, même si ça peut sembler anodin, ou des petites choses. Et on voit que c'est plus Dieu qui est à l'œuvre que nous qui sommes à l'œuvre, heureusement. En tout cas, on a besoin régulièrement d'être vraiment encouragés ainsi. Et donc, n'hésitons pas à partager cela, à s'encourager par ces échanges, de dire qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies, pour pouvoir vivre personnellement notre vie chrétienne, mais aussi, certainement, en particulier, pour aussi la vivre en tant que témoin. Et c'est dans cette continuité que je souhaite partager encore un peu avec vous ce matin, pour vous encourager, j'espère, pas vous lasser. Et je commencerai encore par quelques mots de témoignage d'une connaissance, pas vraiment d'un ami, mais je dirais d'un collègue, un pasteur, un jeune pasteur, jeune en âge et en expérience. J'aurais tendance à dire que Dieu n'a pas été hyper cool avec lui. C'est sûrement un peu irrévérencieux de ma part de dire cela, mais c'est ce que j'ai ressenti en apprenant son histoire. Parce que Dieu lui a confié une église, jeune aussi, implantée juste une dizaine d'années auparavant, dans une ville assez importante dans sa région. Une ville qui est un port de commerce important, avec pas mal de débauches, de prostitution, d'occultisme, et je vous passe les détails. Grande responsabilité quand même pour un jeune pasteur. Je ne sais pas si j'aurais été à la hauteur, plutôt je sais que je n'aurais pas vraiment été à la hauteur, pas vraiment volontaire pour prendre sa place. Thonon est une ville plus tranquille au demeurant, tant mieux. Mais heureusement, Dieu ne fait pas non plus les choses au hasard. Bref, on peut certainement dire que l'évangile était nécessaire dans cette ville. Mais de toute évidence, nous y reviendrons tout à l'heure, l'évangile était très étranger et très inattendu en quelque sorte par les gens de là-bas. Pourtant, mine de rien, l'évangile a pu être pas mal proclamé, même si ça a parfois créé des problèmes. Il y a même eu une fois une émeute quand son prédécesseur, qui a commencé l'évangélisation, prenait la parole, quelqu'un de très zélé. Mais malgré les oppositions, dans sa grâce, Dieu a permis pas mal de conversions qui ont amené une croissance rapide de cette église. Et il y avait vraiment de quoi se réjouir. Au bout de quelques années, l'implanteur d'église a dû partir et le jeune pasteur a pris le relais. Et vous en doutez, il y avait encore bien du travail à faire dans cette jeune église et dans la ville, en particulier au niveau de témoignage. Et sans vouloir décourager, il y a toujours du travail en fait. C'est un peu sans fin. Pas facile pour lui, jeune, célibataire. Alors à certains moments, la foi, la pureté de cœur et tout ça, c'était pas évident non plus. Difficile aussi d'être attendu comme modèle pour les gens de l'Église et un proclamateur de l'Évangile au-delà. Les chrétiens ne sont pas sans faille, même quand ils sont à des postes de responsabilité dans l'Église. En plus, il avait une santé fragile. Et dans son tempérament, il n'avait pas la même hardiesse et pas toujours la même assurance que son prédécesseur. Mais heureusement, un lien affectif aussi fort s'était construit entre ces deux hommes au fil des années où ils avaient travaillé ensemble. Un peu comme si le jeune était devenu le fils spirituel de l'aîné. Alors ce dernier était même, après son départ, toujours en soutien, dans la prière en particulier. Et le Saint-Esprit permet en effet cette unité, même de loin. En prière pour lui, en prière pour l'Église, qu'il avait démarrée et qui évidemment lui tenait toujours particulièrement à cœur. L'implanteur lui envoyait aussi des messages d'encouragement, d'exhortation, de recommandation, de mise en garde. Et je vais d'ailleurs lire quelques extraits de ces messages qui ont été compilés dans un livre que vous avez peut-être déjà parcouru, qui s'appelle « La Bible ». Vous connaissez peut-être. Et dans, je lis dans une partie de ce livre qui s'appelle « La lettre à Timothée », la deuxième lettre de cet épître. Pedro, tu veux mettre la première slide? Je ne sais pas si ça marche, ça, je n'ai pas essayé. Ouais, j'ai dû me tromper de référence, ça doit être 2 Timothée 1:1, je pense. Hein. Oui, c'est 2 Timothée 1:1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, selon la promesse de vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, compassion et paix de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui, à la suite de mes ancêtres, je rends un culte avec une conscience pure, et je fais continuellement mention de toi dans mes prières, nuit et jour. Je souhaite vivement te voir. Je me souviens de tes larmes pour être rempli de joie. Je me remémore aussi la foi sans hypocrisie qui est en toi, comme elle a d'abord habité en ta grand-mère, Loïs, et en ta mère, Eunice. J'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je te le rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. En effet, ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de modération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi, qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu te donne. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. L'apôtre Paul, homme d'expérience, aguerri, mais en prison, encourageant son enfant spirituel bien-aimé, le plus jeune Timothée. Un Timothée peut-être en difficulté dans le ministère qui lui a été confié. Timothée était-il un peu lâche? D'autres traductions ont un mot un peu moins négatif, évoquant plutôt la timidité. Timothée avait-il honte de rendre témoignage? Toutes les traductions que j'ai trouvées utilisent ce mot-là. C'est possible que Timothée ait eu ses défauts dans son caractère ou des faiblesses passagères en la matière. Mais l'important, c'est ce que Paul rappelle, ce sur quoi il invite à se focaliser. Oui, bien que probablement d'un naturel craintif et même manquant souvent de confiance en lui, Timothée ne doit pas oublier que plus que par ses propres forces, assez faibles en fait, plus que sur ses propres capacités, c'est bien sur le Saint-Esprit donné par Dieu et les dons spirituels qu'il a reçus qu'il doit s'appuyer. Si tu mets la 3, Pedro. C'est un esprit de force, d'amour et de modération que Dieu nous a donné. C'est ce que dit en substance ce verset 7. C'est un esprit de force, d'amour et de modération que Dieu nous a donné. Suffit-il de le répéter 50 fois pour s'en convaincre et pour que ça aille mieux? Évidemment non. Je ne suis pas assez spécialiste, mais selon les commentateurs, il semblerait que le mot grec du verset 7, traduit par lâcheté ou timidité, exprime de fait un manque de motivation, une forme de réserve. On pourrait aussi parler de retenue. Quelque chose tout au fond de nous-mêmes qui nous empêche de nous afficher clairement, tout simplement pour exprimer notre foi et de l'assumer. Et j'imagine que c'est un sentiment, je ne sais pas si c'est un sentiment, en tout cas un comportement que nous avons certainement souvent dans telle ou telle situation, face à telle ou telle personne. Voilà, je préfère me taire, j'assume pas. Mais Paul ne dit pas à Timothée de se secouer, de sortir de sa léthargie, de sa torpeur. Allez, reprends-toi en main quand même. Relis le témoignage de Jésus et ça va te rebooster. Puis après, tu organises des choses, sors de ta coquille quand même, Timothée. Non, c'est pas ça du tout. Paul lui dit plutôt, je t'exhorte à raviver le don de la grâce qui est en toi. Laisse l'esprit prendre toute sa place. Arrête de regarder à toi et à tes capacités, que logiquement tu trouves bien faibles et même insuffisantes. Laisse Dieu être le moteur de vie en toi. Laisse Dieu être le moteur de vie en toi. Ça peut sembler n'être qu'une belle incantation, mais c'est le fait, le rappel de l'essentiel. Et je reprends une citation d'un pasteur suisse que j'ai trouvé qui disait « Être chrétien, ce n'est pas d'abord adhérer à un enseignement et s'y conformer dans son quotidien, mais c'est accueillir le don de Dieu en nous. C'est se laisser habiter par le divin. Se laisser habiter par le divin. C'est là le cœur même de l'évangile. La grâce de Dieu est première. Le don de Dieu qui est en nous est tout. Suivre Christ, ce n'est pas appliquer une sagesse ou une idéologie ou un programme spirituel ou social d'un maître à penser. Fut-il le meilleur ? C'est le laisser vivre en nous. Être chrétien, c'est laisser Christ vivre en nous par l'Esprit. C'est un esprit de force, d'amour et de modération que Dieu nous a donné. Timothée, François, Sophie, Paulette, Jane, Fabienne, Roselyne, pour ceux qui sont derrière la caméra, Cédric, Eva, et désolé, je ne vais pas pouvoir citer tout le monde, mais on pourrait. Cela concerne bel et bien tout le monde ici et tout le monde chez soi aussi. Appuie-toi sur cet esprit, laisse-le te nourrir, laisse-le te remplir, laisse-le te diriger. La première grâce communiquée par l'Esprit est la force, dit-ce verset. C'est vrai que l'Esprit divin, de nombreux textes l'affirment, est en effet un esprit de puissance. Et pour ce qui concerne Timothée, la puissance est en particulier nécessaire pour lui, pour une prédication efficace, sans crainte, en lien avec le ministère de la parole, qui est effectivement le sien, dont il a la charge. Mais bien sûr, pour ce qui nous concerne aussi tous, l'Esprit donne aussi à chacun et à chacune le courage pour toutes sortes, toutes formes de témoignages, et même plus largement pour la vie qui plaît au Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous permettra de vivre une vie qui plaît au Seigneur. Et d'ailleurs, même si j'en ai peu parlé la semaine dernière et aujourd'hui, je rappelle quand même qu'il est évident qu'avant même un témoignage verbal, le témoignage certainement le plus pertinent que nous pourrions jamais avoir, avant même que l'on ouvre la bouche, c'est assurément notre témoignage de vie, notre comportement, nos actions, nos réactions. Ça va sans dire, mais c'est évident, mais c'est bien de le souligner. Et merci à Marie, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui me l'a souligné effectivement la semaine dernière après la prédication. Timothée, en fonction de la timidité dont il souffrait, avait grand besoin de la force de l'Esprit. Peut-être que plusieurs parmi nous, sinon tous, nous avons peut-être également aussi besoin de cette force. Ok, force, puissance, mais la mention tout de suite à côté de l'amour enlève immédiatement ce que le terme de force peut avoir de dominateur. L'amour enlève immédiatement ce que ce terme de force peut avoir de dominateur. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, précise un verset de la lettre aux Romains. L'amour pour Dieu, pour les frères et sœurs dans l'Église, Et on en a bien besoin de l'amour, de l'aide de Dieu pour en aimer certains. Je vais regarder personne qu'on me dise, voilà, je me sens visé. Mais non, je plaisante. On est tous aimables, naturellement. Non. C'est plutôt là que je plaisante. On a besoin de l'aide de Dieu pour nous aimer les uns les autres. Et évidemment, amour pour les êtres humains en général. L'amour a bien des directions différentes. Et mon amour personnel n'y suffira jamais. J'ai besoin que Dieu déverse des tonnes de son amour en moi. Et le renouvelle chaque jour. Je ne sais pas si c'est votre cas. Je crois que j'ai la réponse. Mais... Le troisième terme, c'est un mot qu'il n'y a nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Alors la traduction exacte n'est pas certaine. Modération, il y a de ça. Sagesse, c'est le mot que d'autres traductions comportent plutôt. Prudence, maîtrise de soi également. Ça peut nous paraître un peu contradictoire avec cette notion de force et de puissance de tout à l'heure, mais ça contribue certainement encore à adoucir cette première notion que l'on met si souvent mal en œuvre. Ne modérons donc pas l'Évangile, mais laissons Dieu modérer nos mauvaises ardeurs. Le Saint-Esprit, selon la Bible, selon la révélation que Dieu nous fait de lui, le Saint-Esprit inclut bien tout cela. Et cette liste, évidemment, n'est pas exhaustive. Comment pourrait-on décrire Dieu infini en seulement trois mots ? Pour citer aussi le théologien Samuel Benetro, qui a écrit pas mal de commentaires sur les livres du Nouveau Testament, il disait « Le dynamisme qui procède de l'esprit, parce que ce qu'on traduit par force, c'est le mot dynamus, dynamis en grec, qui est plutôt un sens d'une dynamique, donc le dynamisme qui procède de l'esprit, puissance de Dieu, se marque à la fois par l'amour et par une certaine méfiance par rapport à soi-même et à tout désir humain davantage personnel ou de triomphalisme. » Et c'est vrai qu'on a peut-être des fois un peu ce travers, qu'on se dit « Ouais, j'ai la force du Saint-Esprit avec moi. » On perd peut-être un peu notre humilité quand on le met en œuvre. En tout cas, je prie pour que ce Saint-Esprit, à la fois force, amour et modération, soit ce qui est visible dans ma vie et dans mon témoignage. Et je prie que ce soit le cas dans les vôtres aussi. Animé de cet esprit et du Saint-Esprit seul, soyons effectivement porteurs d'évangile, transmetteurs d'une bonne nouvelle qui suscite et porte la vie. Pas en étant dans le faire, c'est aussi un des travers qu'on a peut-être souvent, mais en étant bien dans le fait d'être, ce qui est assurément plus difficile, dans un certain sens en tout cas, si ça ne reposait que sur nos propres forces et qualités. C'est un peu ce que Timothée a expérimenté, et c'est ce en quoi il avait besoin d'être encouragé, renouvelé. Alors que c'est ce qui devrait être le plus facile, en tout cas, si nous nous appuyons sur Dieu et si nous laissons le Saint-Esprit vraiment nous remplir. Seigneur, aide-moi à être chrétien. Pas juste à faire ce qu'un chrétien est censé faire. Aide-moi à être chrétien et pas simplement faire ce qu'un chrétien est censé faire. Saint-Esprit, règne dans ma vie. Donne-moi force, amour et modération pour ta seule gloire. Paul écrit encore à Timothée un peu plus loin dans sa lettre, 2 Timothée chapitre 4. Je t'en supplie, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne, proclame la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, annonce la bonne nouvelle, assure pleinement ton ministère. Eh oh, bonjour, excusez-moi, je voudrais vous parler de l'évangile. Mais Paul dit, les gens n'écouteront pas. Ils ne veulent entendre que ce qu'ils veulent entendre. Ah bon ? Ben ça sert à rien alors, si ça ne les intéresse pas. Insiste quand même, en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Proclame la parole. Faut-il vraiment témoigner ? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose si les gens n'écoutent pas et même ne le supportent pas ? On peut se poser la question, non ? Ces versets répondent qu'il faut partager, proclamer la bonne nouvelle. Fais-le, je t'en supplie, dit Paul avec une insistance et une urgence évidente. Et pourquoi faire alors ? Tout d'abord, je le rappelle encore, ne serait-ce que par obéissance au mot d'ordre du Seigneur que j'ai mentionné semaine dernière et qui nous disait « Je vous serai mes témoins ». Les paroles de Jésus ne permettent pas, me semble-t-il, une compréhension d'une option facultative. Ensuite, rassurons-nous aussi quelque peu, notons aussi que souvent les textes utilisent des termes généraux du style « les hommes », comme on l'a vu au verset 3 que je viens de lire, ou « la foule », « les gens », même le mot « tous » des fois. Pourtant, ça ne veut pas dire nécessairement, sauf rare exception, l'absolue totalité de chacun, c'est où la suite ? C'est là. De chacune des personnes. Mais ce sont plutôt des termes hyperboliques, génériques, une façon littéraire de dire que cela concerne la grande majorité des individus. Mais ça laisse quand même un peu de place pour une petite minorité différente. Ouf. Ainsi, si Dieu nous donne le devoir, mais je dis aussi si Dieu nous accorde la grâce, parce que les deux sont vrais et inextricablement liés, d'être ses témoins, ce n'est pas juste pour que nous nous cassions les dents en permanence sur l'indifférence, voire l'hostilité sourde, voire même l'opposition ouverte des gens à qui nous parlerions. Si les gens sont ou semblent majoritairement non intéressés, certains le sont. Certainement que dans nos témoignages, on pourrait le partager cela. Et même si les gens sont majoritairement non intéressés, tous ont besoin. Oui, tous en ont besoin. Même si la plupart ne le savent pas, ne le comprennent pas, ne le veulent pas. Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, dirait un de mes amis. Vous avez ce même ami, je crois. Les témoignages montrent également, et nous le savons pertinemment, Christ est la seule réponse de Dieu au problème du péché. Ah ça, j'aime pas dire ça non plus. Ah, cette exclusivité, on se dit, mais de quel droit j'ai le droit de dire que Jésus est le seul chemin ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit dans la Bible. Christ est la seule réponse de Dieu au problème du péché. L'évangile est le salut offert au monde entier, à chaque personne de cette planète, que cette personne le sache ou non, qu'elle le comprenne ou non. Paul, dans ce qu'il a écrit à Timothée, a pourtant dit à substance qu'il faut profiter du moment, du temps présent, qui est encore globalement opportun et relativement ouvert à la proclamation de l'Évangile. Et on le vit comme un privilège, ici en France en particulier. Un temps viendra où les gens n'écouteront plus, ne supporteront plus. Paul met cela au futur. Pour lui, c'était au futur. Mais pour nous, ne sommes-nous pas dans ce temps où les gens n'écoutent plus et veulent juste des choses agréables et des fables ? C'est vrai que, passez-moi l'expression, les conneries en tout genre foisonnent, et c'est ahurissant, J'ai vu qu'il y avait encore ce week-end le salon du bien-être à l'espace Tully. J'ai pas été voir ce qu'ils proposaient là-dedans. Il y a sûrement des solutions valables, en tout cas partiellement valables pour certains problématiques de nos vies. Mais est-ce que le bien-être tel que le monde propose est réellement la solution pour le bonheur des gens? J'ai plus de mal à le croire. Les chrétiens ont certainement dû se poser la même question pendant ces 19 derniers siècles. Il y a encore en effet aussi beaucoup de ça aujourd'hui. Et il y aura certainement encore de l'endurcissement demain ou après-demain. Et même cela empirera très probablement pour atteindre un certain paroxysme dans le futur. Il y a certainement aussi déjà eu de cela du temps de Paul, car n'a-t-il pas aussi écrit, c'est dans Corinthiens, les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. Déjà à l'époque, l'Évangile ne cadrait pas avec les attentes et les logiques humaines. Et ça, c'est vrai de tout temps, et cela restera vrai jusqu'à la fin des temps. Car effectivement, l'Évangile n'est pas premièrement agréable. Ce n'est pas agréable d'entendre Dieu nous révéler que nous sommes pécheurs. Ce n'est pas agréable d'entendre que nous sommes rebelles, que nous sommes condamnés et perdus. Ce, bien avant notre décès d'ailleurs. Mais l'Évangile est évidemment aussi et surtout bonne nouvelle. C'est bien littéralement ce que le mot veut dire. Car là encore, inextricablement mêlé avec cette annonce de nos ténèbres, la lumière du pardon, de la réconciliation, de la vie, de la vie nouvelle et éternelle, de son amour, est aussi proclamée et offerte. Et ça, c'est bien agréable à qui le saisit par la foi. Mais moi, j'avoue que je suis quelque peu embêté par certaines injonctions de Paul dans ce chapitre 4 de 2 Timothée qu'on a lu tout à l'heure, notamment le deuxième impératif qui disait insiste quand même en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Une traduction plus littérale dira « insiste en tout temps ou à contre-temps, en saison ou hors de saison ». Dans une occasion favorable, je pense que l'on est tous d'accord, c'est mieux, mais défavorable. Ça veut dire quoi et surtout ça rime à quoi d'en parler dans ces moments-là? Ça ne veut en tout cas pas dire que nous pouvons et encore que nous devrions témoigner avec un bulldozer. Ça ne veut pas dire qu'effectivement qu'on pourrait faire fi des obstacles et surtout faire fi de la situation particulière de la personne qui serait notre interlocuteur. Ne venons pas témoigner avec nos gros sabots, indélicats et peu précautionneux. Où serait l'amour et la modération dont nous avons déjà parlé tout à l'heure? Mais la fin du verset précise quand même aussi que cela doit être fait toujours avec une entière patience, avec douceur, avec le souci d'instruire, disent certaines versions. Ça donne des précisions claires sur le fait que l'on ne peut pas être rentre-dedans avec l'Évangile. Sinon, nous ne sommes pas dans ce bon état d'esprit, à mon humble avis. L'esprit de force et de puissance que nous avons est aussi inextricablement lié à cet esprit d'amour et de modération. Il ne doit pas nous manquer cette facette ou une facette quand nous témoignons. On doit se questionner, voilà, je veux dire. Questionnons-nous sur nos motivations quand on veut parler à quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire non plus chut, faut pas déranger. Scandale, folie, disent les contemporains de Paul concernant le message de l'Évangile. Réactionnaires, passéistes, traditionnalistes, seront peut-être les a priori négatifs qu'auront nos interlocuteurs nous concernant aujourd'hui, en nous voyant comme des religieux. C'est vrai qu'il me semble que pour beaucoup de gens, considérant l'histoire pas très vivante et même assez sombre, parfois austère, d'une partie de l'Église, Dieu et a fortiori l'Église ne font plus du tout partie pour eux de l'équation de leur vie, et certainement pas partie de la solution possible à leurs problèmes en tout cas. Leurs a priori sont peut-être plutôt que nous sommes des illuminés ou des sectaires, s'ils ont peut-être en tête certains stéréotypes véhiculés par les médias des fois sur les évangéliques, les évangélistes, c'est souvent confondu aussi les deux. Peut-être que c'est le cas, ou peut-être même carrément qu'ils n'ont pas d'a priori du tout, tellement l'Évangile est extraterrestre pour eux, tellement étranger, étrange même. Quoi qu'il en soit, comme l'écrit Éric Denimal dans le livre « Dire Dieu » que Jonathan propose là à la lecture, battez-vous pour venir le chercher tout à l'heure, avec amour et modération. En précisant ce que l'Évangile propose, mais aussi ce qu'il réclame, je sais que mon interlocuteur découvre souvent des choses si nouvelles qu'il peut en être totalement déstabilisé. Du coup, il se met automatiquement sur la défensive. L'Évangile est tellement aux antipodes des attentes ou des solutions envisagées par les gens en particulier, dans notre monde postmoderne ou post-chrétien, que de toute façon, toute occasion de partage pourra, sous un certain angle, toujours paraître décalée, à contre-temps, voire défavorable, non ? Je suis volontairement dans le pessimisme provocateur en disant cela, mais l'Évangile n'est-il pas en effet toujours un peu hors de propos ? Oui, l'Évangile est hors de propos pour la plupart des gens. Du moins jusqu'à ce qu'ils comprennent et acceptent par la foi le plan de salut de Dieu pour eux. Même si les gens le croient hors de propos, pourtant, a priori, il est bien les mains totalement à propos. Rien ne l'est plus. Rien d'autre ne l'est. Alors ne nous formalisons pas trop sur notre appréciation de l'occasion ou l'appréciation de l'autre quant à ces occasions, savoir si elle est favorable ou non. Mais je répète, si nous sommes animés par cet esprit de force, d'amour et de modération, on aura le souci d'aider et d'aimer celui à qui on va parler. Oh, ça passera peut-être quand même pas, mais les gens, je le pense, n'auront pas cette impression ou d'une agression ou d'un impérialisme de notre part. Ça sera déjà pas mal. Nous serons juste un maillon dans une chaîne que Dieu utilisera pour se révéler petit à petit. C'est sûr que si notre interlocuteur est bien disposé, ça aide quand même, hein, mais en tout cas, n'ayons pas cet empressement à chercher des excuses à la paresse ou à la timidité, qui voudrait qu'on attende tout souvent des occasions meilleures, plus favorables pour communiquer l'Évangile, ou encore de décider que l'autre n'est pas prêt, ou n'est plus prêt, comme moi, un peu avec mon frère. Et finalement, pour éclairer une autre facette de notre rôle de témoin, et nos fréquentes erreurs de posture aussi peut-être, j'aime bien un autre extrait d'une prédication d'un pasteur d'église réformée. Donc, vous aurez les références quand j'enverrai le texte de la prédication, si ça vous intéresse. Il disait, dans la posture chrétienne, donc dans le cadre du témoignage, on confond trop souvent le témoin avec un juge, un avocat ou un expert. Mais le témoin n'a pas le même rôle qu'eux. Un juge est là pour juger. Et la tentation est grande pour les croyants de devenir juges des autres, de leurs idées, de leurs comportements, donnant des brevets de bonne conduite ou condamnant les hérétiques. Un avocat est là pour défendre. Et la tentation est grande pour les croyants de devenir avocat de Dieu, comme s'il ne pouvait pas se défendre lui-même. Et bien souvent plutôt l'avocat de l'image de Dieu, image quelque peu déformée, tronquée, biaisée parfois, qui peut être la nôtre. Un expert, c'est celui qui reste neutre, qui regarde avec son savoir pour donner une explication rationnelle ou poser un diagnostic. La tentation, là aussi, est grande de se situer au-dessus de la mêlée, comme celui qui sait, qui peut dire le vrai ou le faux, qui peut donner des explications sans s'engager du haut de sa science. Le témoin n'est qu'un témoin de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, avec authenticité, mais aussi, c'est vrai, avec une certaine part de subjectivité qui peut en découler. Voilà quelques pistes de réflexion, j'espère qu'ils pourront nous être utiles, encourageantes. Et si vous avez encore besoin d'être encouragé, on peut prier. Prions et désirons ardemment la plénitude de l'Esprit en nous. Mais la dernière, Pedro, s'il te plaît. Dieu exauce toujours ce genre de prière. Rappelons-nous bien, en effet, que sans l'énergie de Dieu qui habite en nous, sans Dieu en nous qui nous habite, on ne peut pas faire grand-chose. Réjouissons-nous, car c'est un esprit de force, d'amour et de modération que Dieu nous a déjà donné. Donné à tous ceux, toutes celles et ceux qui ont remis leur vie entre ses mains. Amen. Alors prions. Oui, Seigneur, j'ai besoin de ton encouragement. Peut-être d'un coup de pied aux fesses de temps en temps, mais merci parce que toi aussi, tu es force, amour et modération à mon égard. Et c'est vrai que toi, Saint-Esprit, tu agis aussi envers moi de la même façon que tu attends que je te laisse agir envers les autres. Merci pour ce rappel d'effectivement, ce n'est pas sur mes forces que je dois m'appuyer, pas sur mon intelligence, pas sur ma rhétorique, pas sur des belles paroles que j'aurais pu apprendre par cœur. Je veux m'appuyer sur toi, Seigneur. Prends plus de place dans ma vie, règne en moi, pour pouvoir, avec hardiesse, cette force, cette puissance que tu veux que l'on ait, mais en même temps, avec tout cet amour dont toi-même tu fais preuve qui prend vraiment en compte l'autre, dans sa situation, dans ses difficultés, dans ses questions, dans ses doutes, que je puisse ainsi parler, partager l'Évangile, vivre l'Évangile, avec sagesse, sans modération, mais avec un esprit modéré vis-à-vis des autres. Pas un esprit inquisiteur, pas un esprit de juge, pas un esprit d'avocat de ta part, qui ne serait pas ma position, pas avec un simple esprit neutre d'expert, mais vraiment en tant que témoin. Témoin de tout ce qu'on a vu déjà, de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on sait de toi, même s'il y a encore plein de choses à apprendre, on a déjà beaucoup à partager. Et tu es la solution, Seigneur, au problème des gens. Tu es le seul qui peut changer leur vie en profondeur, changer leur cœur, leur donner un avenir fait d'espérance. Merci pour le privilège de te connaître, Seigneur. Merci pour toutes les personnes que nous croisons. Et je te remets nos familles, frères et sœurs, enfants, parents, nos voisins, nos collègues, toutes ces personnes que nous croisons plus ou moins régulièrement, peut-être sur lesquels on a fait une croix dessus en disant « Mais non, mais Dieu, ça ne les intéresse pas. » Toi, tu les intéresses. Enfin, ils t'intéressent. Que tu puisses, Seigneur, travailler les cœurs. Et si dans ta grâce, tu veux m'utiliser à un moment ou à un autre comme ton témoin, je suis à ton service. Aide-moi à dépasser ma peur, aide-moi à dépasser mes craintes. Aide-moi à formuler des mots qui ne seront pas de simples balbutiements ou qui seront du cafouillage. Je veux me mettre à ta disposition, Seigneur, sans me croire indispensable, mais en voulant être utile, si tu le permets. Et je te remets chacun et chacune de personnes de notre Église aussi, qu'on ait toute cette motivation aussi, jour après jour, de te laisser vivre en nous, et que ça se voit, pour ta gloire et ta gloire seule. Amen.